tous. Retrouvez tout de suite l'équipe de la demi-heure sport.
Bonsoir à tous, il est 19h20, je suis ravi de vous retrouver sur Liberté FM pour un nouveau numéro de la demi-heure sport. Ce soir, je suis accompagné de Cyril Meng. Comment ça va, Cyril ?
Ah ben ça va, merci.
Normalement
tout va bien, on est bien.
Les micros sont bien ouverts.
Exactement.
C'est parfait. Bon endroit, un technicien, il est en vente si vous avez besoin d'un technicien.
Oui, bien sûr.
Il est là. Allez, ce soir on va parler d'un sujet qu'on ne parle pas souvent dans la demi-heure sport. On va parler de la motocross, on va parler de l'enduro. On a du coup trois invités qui sont avec nous ce soir. On va recevoir du coup trois dirigeants du motoclub Parchemin de La Tour Blanche Cercle. Ils vont nous parler, c'est le grand événement du côté de La Tour Blanche cette semaine, c'est ce week-end pardon, entre le 30 et le 31. Ils vont organiser le championnat de France enduro ancienne, le trophée de France enduro féminin et l'Euro Family. On va vous expliquer dans la demi-heure sport pendant 30 minutes. On va vous expliquer tous les détails. Je présente les trois invités, Sandra Basile, qui est donc la secrétaire trésorière du club, qui est avec nous. Bonsoir Sandra.
Bonsoir.
On est accompagné de Guillaume Petitjean. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Et du président de l'association, Francis Delors. Comment ça va ?
Très bien, merci.
Merci coup à vous trois d'avoir accepté l'invitation. Oui, Francis.
Je tiens à apporter une petite précision. Nous sommes trois coprésidents.
Voilà.
Seul président.
D'accord, trois coprésidents.
Jérôme Leneutre, Guillaume Petitjean et moi-même.
Voilà, donc la précision, oui, c'est important de recadrer les choses. Francis, le MC Parchemin, il est né comment ?
Alors, il est né en fin 97, je crois.
Ouais. Pourquoi ?
Il est né face à la... Nous étions un club d'amis qui pratiquions tranquillement sur les chemins et nous nous sommes rendus compte que pour avancer, si j'ose dire, il fallait... se structurer. Face à la loi Olin, je ne sais pas si vous vous souvenez, la loi Lalonde, on a décidé de se structurer. Donc, cinq copains ont apporté, ça va pas être original, ont apporté chacun 50 euros. On est allé pêcher, j'étais ami à l'époque avec Patrick Huette, qui était patron de la grappe de Cyrano. On a donc pompé, entre guillemets, ses statuts.
Ouais.
Et voilà, nous avons déposé les statuts de
l'association.
1er janvier 78.
Ouais, ouais. Et du coup, comment Guillaume est rentré ? Comment Sandra est rentré dans l'assaut ?
Petit à petit, au fil des années, nous sommes structurés encore un peu plus. On organisait des randonnées au début et puis quelques compétitions. Ce que je tiens aussi à préciser, c'est que nous avons toujours adhéré à la Fédération Française de Moto depuis 30 ans maintenant. Ligue Moto Aquitaine, Fédération IFFM. Et puis au fil des années, donc un peu plus de structure et un peu plus d'envie d'entreprendre. Et voilà, on en arrive à la deuxième manche du championnat de France cette année.
Ouais, on va y revenir du coup tout à l'heure, mais on va vraiment parler du club. Du coup, toi Guillaume, comment ça s'est fait ? Comment tu t'es rapproché de cette association ?
Bah, naturellement en fait, où on se connaissait un petit peu à côté, et puis bah, j'achète une moto, je vais rouler avec eux, et puis bah, c'est comme une famille en fait, c'est des amis, tout ça. Donc je suis rentré comme ça, un petit peu comme tout le monde du club en fait, hein.
Comme ça a été le cas du coup pour toi aussi, Sandra ?
Oui, alors moi je ne fais pas de moto, mais mon fils en fait, puis ça m'a intéressé, puis c'est sympa, on passe des bons moments, on s'entend tous bien.
Ouais. Non, c'est important, en fait, là vous dites qu'il y a la convivialité qui s'est créée au-delà de la moto. Sandra qui ne fait pas de la moto, qui cadre un peu les choses, je pense, pour l'association, qui fait beaucoup de choses au niveau, du coup, à côté, parce qu'on sait que gérer une association, c'est aussi beaucoup d'administratif.
Oui, surtout quand on entreprend des gros événements, mais ça va. Ouais, on est une bonne équipe. Oui, c'est ça, en fait, on est une équipe, quoi.
Ouais, ouais. Il faut savoir, parce qu'avant de parler, du coup, aussi de votre événement que vous organisez là, ce week-end, chaque année, il y a un grand événement à la Tour Blanche qui est organisé par vous. C'est au mois de septembre, je crois, si je ne dis pas de bêtises, non ? Votre rando, ou au mois de décembre ?
C'est au mois de décembre, voilà.
Qui mobilise à peu près combien de motards ?
Il y avait à peu près 200 motards. Mmh. On appelait ça la rando de Noël.
Voilà.
Parce que on faisait ce rando à Noël, c'était la fin de la saison. Vous avez compris, c'est une famille. C'est aussi une famille au niveau régional. Et on a pas mal de pilotes qui ont terminé leur saison et qui venaient chez nous passer un moment convivial. Voilà. Je tiens aussi à dire que cette famille du Motoclub Parchemin existe. Et cette ambiance de passionnés, de bénévoles jusqu'au bout existe depuis toujours. On est toujours copains. Les cinq membres sont toujours là. Ça avance comme ça.
Ça, c'est quelque chose qui est magique.
Ça se rajoute.
Et ça se rajoute. Voilà. Aujourd'hui, le noyau dur de cette association, c'est combien de personnes ?
Le bureau, c'est 15, 15 personnes.
C'est 15 personnes, ouais. Du coup, on est parti du coup de 4, 5, du coup, à 15 personnes aujourd'hui.
15 personnes, aujourd'hui, mais à peu près 80 bénévoles.
80 bénévoles, voilà, pour l'association. Il faut savoir, donc, pour l'enduro, vous ne faites pas de compétition, il n'y a pas besoin de licence. Mais par contre, si vous faites de la compétition, vous avez besoin d'être licencié à un club. Et c'est là où c'est qu'on retrouve certainement les 15 licenciés du club.
Peut-être un peu plus.
Peut-être un peu plus, ouais.
Oui, oui, oui. On peut parler des pilotes. Hein. On peut citer deux pilotes du club.
Ouais.
Un jeune qui fait le championnat de France d'enduro kid il y a 12 ans. Mm-hmm. Et un autre pilote, Thibaut Pubarot, qui lui a 23, 4 ans, qui est pilote officiel Sherco.
D'accord.
On ne devient pas pilote officiel Sherco et qui fait du hard enduro, c'est-à-dire de l'enduro extrême, et qui a été classé second français l'an dernier lors du championnat.
Ah oui, donc ça performe aussi.
Ah oui, ça performe.
pas mal. Voilà. Ouais, ouais. Voilà. Donc, en fait, dans l'enduro, il y a combien de catégories ? Parce que là, on me dit, on parle de l'enduro kin, on parle de l'enduro hard.
Je pense qu'on va rester concentré sur l'enduro à l'ancienne, peut-être.
Ouais.
Parce que ça part de... Vous pouvez commencer à pratiquer à partir du moment... Avec un 50, hein.
D'accord,
10,
d'accord.
10 ans sur terrain fermé, 7 ans en cross. Et ensuite, l'enduro à l'ancienne, bien, il y a plusieurs catégories. 9 catégories.
9 catégories dans l'enduro ancienne.
9 catégories. La première débute avec les motos d'avant. 1976, et ça se termine en 1998.
98.
Pour les plus récentes.
Ok, ok, ok. Donc là, c'est un peu les collections de famille qu'on va ressortir ce week-end.
Oui, pas forcément. Il y a toujours de très bons pilotes qui ont la soixantaine, hein, et qui sont là pour le chrono.
Ouais, bien sûr.
Qui viennent passer un moment convivial entre eux, mais qui se tirent toujours la bourre. Quoi.
Oui, bien sûr. Il y a cet esprit de compétition qui...
Ouais, ça, ils sont un peu nombreux. Ça représente une trentaine de très bons pilotes.
Ouais, ouais.
Et puis après, les gens qui bissonnent leur moto,
qui
sont de véritables passionnés. Et ça, c'est le côté sympa du truc. Quoi.
On le sait, pour ceux qui ne savent pas, c'est la deuxième fois que vous organisez du coup cet événement. Cette année, c'est la deuxième fois. L'année dernière, malheureusement, vous avez organisé le premier jour de compétition, mais par les conditions météorologiques, vous avez été contraint de l'abandon. Dans des conditions vraiment très très difficiles. Je me souviens, on avait même diffusé des images sur la radio où c'est que les motos s'enfonçaient dans les chemins. C'était vraiment assez particulier. Guillaume, est-ce que tu peux nous faire un petit retour de cette édition ?
C'était humide.
Ouais.
Non, c'était,
apocalyptique.
Apocalyptique, ouais, c'est le mot. Et puis un petit peu décevant aussi, quand même, parce qu'on a travaillé durant des semaines et des mois entiers très durement pour faire cette épreuve-là sur deux jours. Et quand on décide tous ensemble le dimanche matin de dire on arrête tout et cette décision, ça met quand même un petit coup au moral, quoi. Et on se dit, faut qu'on recommence et qu'on le fasse bien. Et
d'où notre retour.
Donc voilà. Le retour pour cette année. Oui, Francis.
Ouais, il faut quand même préciser que ce n'est pas nous qui nous engageons.
Ouais.
On est sollicité par la FFM. C'est une épreuve nationale. Et c'est la FFM qui propose le nombre de clubs et qui ensuite décide de la date et nous dit voilà, vous allez organiser cette année 30 et 31 mai. On n'a absolument aucun pouvoir.
Et la FFM avait du coup été séduite certainement par l'organisation autour de cette première édition pour revenir cette année.
Tout à fait. Il y a quelques mois, nous avons une conférence audio avec tous les membres de la FEDE concernant l'enduro, bien sûr, les clubs organisateurs l'année dernière et les nouveaux clubs organisant cette année.
Ouais.
Et on a obtenu la note de 2 sur 5 l'an passé.
Ouais.
Voilà, pour notre accueil, pour notre réactivité, pour notre organisation. Et le responsable FFM nous a dit que ce serait bien que pour les pilotes qui ont gardé un goût amer, vous essayiez de refaire un truc.
D'accord.
On en a parlé, on a fait une réunion, on en a parlé, et tous ensemble, on a décidé de remettre ça. Quoi.
Ouais. Voilà. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à poser en direct, vous pouvez via, bien sûr, les réseaux sociaux. Effectivement, moi, il y avait quelque chose qui m'avait, du coup, que j'avais remarqué l'année dernière, c'est qu'effectivement, il y a des pilotes, du coup, qui n'ont pas pu faire cette deuxième manche, mais par contre, des avis des pilotes qui ont été touchés par l'organisation, par l'accueil du Périgord, par ces personnes qu'ils ont rencontrées à la Tour Blanche. Est-ce que toi, ton téléphone a certainement sonné? Il sonne encore d'ailleurs actuellement. Il y a quelques instants, il sonnait encore avec Frédéric Reynaud, un pilote de Aix-Provence, qui était là pour repérer un peu.
Des Alpes de Haute-Provence.
Des Alpes de Haute-Provence, pardon, pour la correction. Et du coup, il y avait vraiment des pilotes qui ont laissé des beaux messages en disant il ne faut pas rester sur un échec.
Sur un échec et remettre ça l'année prochaine.
Est-ce que c'est ça, du coup, qui a été vraiment le vecteur de dire j'y retourne ?
Ouais, vous avez compris qu'on fait ça avec passion et on a mal vécu, pas l'échec, mais le semi-échec l'an dernier, qui est décidé par nous-mêmes. Par le jury. En fait, il y a une réunion du jury le soir.
Ouais.
Il est tombé 130 mm dans la nuit. Il n'était pas possible. Le jury est composé du directeur de course, du responsable de la Ligue, du responsable fédéral, de plein d'officiels qui se déplacent pour l'occasion. Et on a pris, je pense, la sage décision de...
Oui, de pas... De pas voilà.
C'était décevant, mais ce n'est pas un échec pour nous.
Voilà. Oui, tout à fait. C'était
une grosse déception.
Ouais. C'est pour ça que cette année, on met les bouchées doubles. Là, du coup, on s'est décidé quand c'est qu'on a su, du coup, qu'on organisait cette nouvelle édition.
En novembre. Oui.
D'accord.
En novembre 2025, oui.
Et donc là, quand vous avez su qu'il fallait remettre, là, c'est reparti. Du coup, on cherche les sponsors. Comment ça fonctionne, l'organisation d'un tel événement ?
La première chose à faire, c'est de déposer le dossier en préfecture.
Ouais.
Donc, c'est... 3 mois avant.
D'accord.
Avec toutes les pièces nécessaires.
Choix des circuits.
Oui, du parcours. Des spéciales, autorisation bien sûr des propriétaires pour ce qui est en terre privée. Puis chercher des médecins, des dispositifs de secours, une grosse machine quoi à mettre.
Ouais. Pour les curieux, là, pour les gens qui ont envie de venir là, du coup, sur ces 2 jours, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des lieux stratégiques à aller sur les parcours ? Est-ce qu'il y a vraiment des endroits qui peuvent être... qui peuvent être un plus. Toi, je sais que Guillaume, tu du coup avec ta moto, tu ouvres, tu vas un petit peu. C'est toi qui ouvres le circuit.
Responsable buvette.
T'es responsable buvette.
Mais pas.
Ouais, il en faut un responsable buvette. Mais du coup, tu veilles sur les parcours, sur les fléchages.
Bien sûr.
Est-ce qu'il y a des endroits stratégiques du coup à venir pour voir tous ces pilotes ?
Donc pour tout ce qui va être. Pour venir nous voir, donc à la buvette, à la spéciale 1 en fait.
Ouais.
Donc là, il y aura une buvette, il y aura une restauration, il y a tout ça. Et en même temps, il y a un beau panorama sur vraiment la course en elle-même.
D'accord.
Là, c'est vraiment la course.
D'accord.
C'est une banderolée. Et donc là, c'est tout intéressant à regarder. Quoi.
Le lieu stratégique, pour ceux qui ne connaissent pas, la Tour Blanche, c'est où ?
Lieu dit le Cheval Blanc.
Voilà,
c'est la Tour Blanche sur direction Selles.
D'accord, direction Selles, et c'est cette partie-là où c'est que ça peut être très intéressant.
Ça peut être très intéressant.
Ouais. Le programme, Francis, comment ça se passe ? Comment ça va se dérouler ?
Donc le programme, on part, il y a déjà le vendredi après-midi, où nous effectuerons les contrôles administratifs.
Ouais.
Contrôles administratifs, alors cette année c'est bien, tout est informatisé, c'est sur des tablettes. Et les contrôles techniques, donc là il faut déjà un certain nombre de bénévoles, et ça dure l'après-midi. Et le technique continue le samedi matin jusqu'à 10h.
D'accord.
Voilà. Le départ de la course a lieu à 11h samedi.
OK.
Nous partons à 11h. Et pour rejoindre la spéciale 1, je vais passer les détails. On met à peu près 35 minutes, 35-40 minutes.
D'accord.
On arrive sur la spéciale. Et là, la spéciale est équipée de chrono. Chaque pilote, chaque moto est équipée d'un transpondeur. On passe au départ, 15-20 mètres après le départ, sous la tonnelle. La moto enclenche.
Le chrono.
Ouais. Et voilà, c'est le chrono qui fait le classement. Les chronos qui font le classement à la fin de l'épreuve.
D'accord.
Ensuite, on part de cette première spéciale pour une liaison. On appelle ça un parcours de liaison qui dure 1h40 à peu près. Et au bout d'1h40, après s'être baladé tranquillement et respecter et le code de la route, parce qu'il faut préciser que ce sont des motos d'enduro, donc toutes conformes au code de la route.
Hein. Ouais.
Donc tous les pilotes sont assurés, ont un permis bien sûr, et voilà. Et au bout d'1h40, on arrive sur la spéciale 2, qui est aussi une spéciale, je dirais en ligne, un peu plus compliquée, d'une durée de 8 minutes. Et cela, c'est à faire 2 fois dans la journée.
D'accord.
Et rebelote le dimanche matin.
On
part plus tôt, à 9h, pour mieux gérer après la disponibilité des gens. On part, alors la spécificité de l'ancienne, c'est qu'on fait le dimanche à l'envers. Ça se passait comme ça à mon époque.
D'accord.
Voilà, on fait un jour dans un sens et le lendemain dans l'autre sens.
D'accord.
Et les pilotes retrouvent, aujourd'hui ça a beaucoup d'enduro, on retrouve cet esprit d'enduro à l'ancienne.
Ouais. Voilà. Et du coup, les flèches, on les change de sens ou non ?
Non.
Surtout pas.
Alors là, la fédération amène 4-5 sponsors quand même. Et, je ne sais pas si on peut les citer.
Bien sûr.
Et Beer Racing notamment et la Bécannerie.
Ouais.
Et on flèche une journée dans un sens et l'autre jour dans l'autre sens, d'une couleur différente.
D'accord, voilà. D'accord. Comme ça, les pilotes, on en parle de couleurs, ils savent voilà, directement. Voilà. Alors, ce qui est... Oui, vas-y, continue sur, sur la partie programme.
Bien le dimanche matin, donc départ 9h.
Ouais.
Et deux spéciales, enfin, deux tours encore dans l'autre sens. Quatre spéciales, fin de la course vers 17h, je pense, et remise des prix 18h.
D'accord.
Chaque journée est une journée de course.
Oui.
Voilà. En fait, il y a une épreuve par jour.
Une épreuve
par
jour.
Avec une remise des prix chaque soir.
D'accord.
Voilà.
D'accord, d'accord. Pour les gens là, du coup, qui ne peuvent pas, du coup, c'est quasiment impossible de pouvoir suivre la course, du coup, je veux dire en live. Il faut vraiment être au point stratégique, comme il disait à la buvette, pour vraiment voir l'arrivée, du coup, l'arrivée des pilotes. Ou c'est que là, on voit vraiment les classements. Comment ça se passe vraiment l'épreuve?
Mais il y a un PC course hein,
ouais,
qui est à la salle polyvalente.
Ouais.
En revanche, le départ est au pied de la salle polyvalente.
Ouais.
Et pour voir les pilotes, pour voir leur moto, on peut venir à n'importe quel moment de la journée. Il y a toujours un peu de mouvement.
Oui, oui.
Mais aller sur les spéciales, bien sûr.
Ouais.
Aller voir
ouais,
les spéciales.
Au départ, sur les spéciales. Et après, si vraiment quelqu'un veut voir les résultats, c'était sur le live de la fédération. Donc, live FFM, et ils peuvent voir les résultats.
Donc, il y a quand même un live, du coup, qui est fait par la fédération.
Ouais.
Dans les remises de prix, qu'est-ce que c'est? C'est il y a un maillot bleu, blanc, rouge qui est en question ou pas du tout? Comment c'est la distinction?
Bien sûr.
En tout... chaque soir, il va y avoir 72 trophées de remis.
Ils seront remis, d'accord.
Voilà, parce que
d'accord,
chaque catégorie, il faut récompenser, ce qui est normal,
ouais,
les trois premiers de chaque catégorie.
D'accord.
Voilà.
Et ça, du coup, c'est la fédération, c'est le club, comment ça fonctionne pour aller chercher, du coup, ces dotations?
Alors là, c'est des trophées, donc c'est des récompenses.
Ouais,
quoi,
ouais, ouais, ouais.
À la charge du club.
À la charge du club, voilà, c'est ça que je voulais dire. Pardon, c'est ma question qui n'était pas bonne. Voilà.
C'est nous qui les faisons... faire.
D'accord, d'accord. Donc charge du club et le maillot du coup de champion de France par catégorie.
Au bout de 5 épreuves.
Au bout des 5 épreuves.
Ouais. Il y a 5 épreuves nationales.
Voilà.
Ça est donc la dernière épreuve. Ouais.
Vous allez m'aider. La première a eu lieu à Aubusson.
Aubusson.
Ouais.
Deuxième la Tour Blanche. Troisième Monin côté de Pau. Quatrième Saint-Junien dans le 87.
Et Marcolès.
Cinquième Marcolès dans le Cantal.
D'accord, d'accord. Donc là, ce qui est bien sur cet événement, c'est qu'aujourd'hui, au niveau économiquement, ça draine, ça draine beaucoup parce que pour l'économie locale, c'est très très important parce que finalement, il y a toute la France qui va se déplacer ce week-end à la Tour Blanche.
Et l'étranger aussi.
Et l'étranger, oui, parce qu'on va parler. J'ai vu une nationalité, j'ai vu un Australien, j'ai vu un Espagnol, j'ai vu un Italien.
Trois Espagnols.
Et comment ça se fait qu'ils participent à ces événements?
Des passionnés, purs et durs, depuis toujours presque. Hein. L'Australien en question prend 2-3 mois de vacances, vient en Australie, il possède une maison dans le Midi, je crois, et il fait tout le championnat avec sa moto ancienne.
Ouais, ouais. Voilà. Pour imaginer quand même, lui, ça doit quand même, pour venir à la Tour Blanche, ça doit quand même lui coûter, parce qu'il y a l'avion, il y a le transport de la moto dans l'avion, je pense que ça doit être...
Je pense que sa moto reste dans le sous-sol. Il a une résidence secondaire.
Ah, d'accord. ouais. Donc, il aime la France.
Ah, oui, complètement.
Ouais. Donc, ouais, au niveau des nationalités, aussi au niveau des gens connus qu'on peut préciser. Parce que j'ai vu qu'il y avait vraiment des très, très, très beaux noms.
Oui, alors, je ne peux pas les citer tous de mémoire. Je suis un peu vieux. Mais
les têtes d'affiche, je veux dire.
On peut citer Thierry Magnaldi. On peut citer, aidez-moi, il y a plein d'anciens pilotes, Thierry Magnaldi, 18 Paris-Dakar.
Voilà.
Thierry Jol.
Et champion du monde, Thierry Magnaldi.
Champion du monde, ouais. À plusieurs reprises.
À plusieurs reprises.
Second du Paris-Pékin.
Voilà.
Il a fait plein de choses. Et là, il vient rouler en 80 cm. Je sais pas si. 80 cm cube était une catégorie qui n'existe quasiment plus aujourd'hui. Hein.
Ouais.
Catégorie d'ancienne.
D'accord.
C'était le top quoi à l'époque.
Ouais.
Et voilà, il reroule avec un 80 Fantique cette année. Jean Cyril Jol, son prénom, je l'ai oublié. Patrick Cyril Jol.
Patrick.
Lui, 63 ans, 30 Paris-Dakar.
Ouais.
15 Paris-Dakar en moto, 15 en auto.
Puis beaucoup d'autres choses.
Et plein d'autres pilotes de notoriété. L'an dernier, Marc Germain, champion du monde, était là. Et là, on peut citer Thierry Millet, François Broal.
Qui seront là. Et finalement, en fait, de tout, moi, c'est ce que j'ai entendu sur les gens qui étaient sur l'événement de l'année dernière, c'est qu'au final, ces grands noms se font dans la masse et se font discrets aussi.
Complètement.
C'est ça qui est beau.
Complètement. Ils sont anonymes, quasiment.
Ah, ouais.
On ne les reconnaît pas, et puis humbles.
Tous humbles, ouais. Content d'être là.
Ça ne devrait pas le dire, mais ce qui n'est pas le cas sur certaines épreuves.
Oui, c'est que c'est compliqué d'approcher les paddocks et les pilotes.
Ah non, mais là, tout le monde est accessible, tout le monde est simple, sympa. C'est...
Et même le plaisir peut-être de partager, le plaisir de montrer sa moto, le plaisir voilà, de dire, ah, ben, regardez, ma moto, elle a tel moteur, telle carrosserie.
Tout à fait. Il y a plein de gens qui vont venir voir les anciennes motos.
Bien sûr.
Qui viennent revoir ça, qui ont, entre guillemets, la banane. Quoi.
Ouais.
Le départ, il part 3x3, je crois.
Oui.
Voilà, donc
ça vraiment laisse en plus
voilà,
le voir.
Voilà, ça
de...
laisse le temps de voir chaque moto. Vu que le départ est espacé par 3x3, on peut voir 3 motos, plus 3 motos. C'est vraiment un spectacle.
Vraiment un spectacle. Guillaume, s'il y a des endroits, du coup, pour les pilotes qui nous écoutent, les endroits qui sont magiques sur les parcours, c'est quel endroit ?
Partout. On est en Dordogne quand même. La Dordogne, c'est beau, surtout la Tour Blanche quand même.
Ouais.
Non, c'est vrai qu'il y a quand même de très très beaux endroits. Enfin, il y a des belles communes à voir, des beaux chemins. On voit du gibier encore. J'ai roulé il y a 2 jours. Il y avait 2 chevreuils qui sont passés devant. C'est rigolo. C'est plaisant, quoi. C'est d'enduro, c'est beau. Il y a, après, des endroits vraiment particuliers.
Au pied du château de Bourdeil, par exemple.
Ouais.
Oui.
On découvre des chemins. Ombragé, magnifique.
Ça s'étend sur combien de kilomètres du coup là autour de la Tour Blanche? On sait à peu près ou pas du tout? C'est pas dit sur Bège. Ouais.
Quand nous déclarons l'épreuve à la préfecture, on va sur une plateforme et on donne une trace GPX. Les communes savent exactement où l'on passe et.
Ils ont validé le parcours.
Bien sûr,
voilà.
Tout à fait.
Aujourd'hui, sur la surface, je pense peut-être Sandra ou Francis, vous organisez ça. C'est combien de chemins privés, combien de propriétaires privés chez qui on passe
sur le parcours? Zéro.
D'accord.
Nous
puisque c'est voie publique.
C'est que des voies publiques.
Pardon. Nous n'empruntons que des chemins ouverts à la circulation publique.
D'accord.
En aucun cas, nous n'allons
sur des parties privées. Ouais, sur des parties privées.
Hors spécial, évidemment.
Hors spécial. Ouais.
Les spéciales sont sur 2 terrains privés.
D'accord.
Avec autorisation des propriétaires.
Des propriétaires,
oui. quand même.
C'est mieux.
Bien sûr.
Ils vont s'en apercevoir.
On le sait, on vit un petit peu un fléau par des personnes qui viennent un petit peu saccager des gens qui, par exemple, je pense que vous, ça vous est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Vous mettez en place des fléchages. Les fléchages sont du coup enlevés. Des barbelés qui sont mis qui peuvent crever des yeux. Enfin, c'est des faits qui se sont passés. Comment on fait pour lutter contre ça, contre un genre de sauvagerie, on va dire?
On communique. Que voulez-vous faire contre?
Pourquoi, Francis, il y a ce genre de comportement?
Pourquoi? Que devons-nous dire? Que devons-nous répondre? Si ce n'est que ce sont des gens particuliers qui... arrive. Une idéologie aussi derrière tout ça et qui ne supporte pas grand-chose,
ouais.
Ni les autres. Les fils de fer tendus dans les barbelés tendus dans les chemins, dans la région de Bourdeil, c'est arrivé alors que nous étions en train de reconnaître la rando VTT de Possac.
D'accord.
On travaille avec
bien sûr.
Certains clubs des VTT.
De VTT, ouais.
VTT, on les aide, on reconnaît avant. Et là, c'est arrivé ce jour-là, lors de la reconnaissance de la rando VTT, il y a quelques années. Mais c'est arrivé aussi à Franck, un des coprésidents, qui est vice-président aujourd'hui du club, et son fils, qui avait 14 ans à l'époque, à Milhac de Montron. Lui, il s'est fait prendre à la gorge.
Par un barbelé,
il est tombé. Et le gamin, imaginez le gamin, 14 ans à l'époque. Quoi.
Bien sûr.
Et ça, c'est...
Oh, c'est ça.
Il faut quand même dire que c'est une minorité.
Bien sûr.
Oui, mais ça peut être très dangereux.
Ça devient récurrent. Par rapport à les défléchages surtout. Les gens ne se rendent pas compte de l'importance.
Ou le refléchage à l'envers aussi.
Oui.
Bien sûr.
Cette semaine encore, à 3 reprises, on a trouvé des flèches qui étaient...
Inversées.
Mises à l'envers. Ouais.
Mises à l'envers,
Et qui renvoyaient les motos sur la route, imagine
le carnage.
Dangereux.
Ouais.
Et puis c'est très dangereux parce qu'en fait, les pilotes, ils ne savent plus trop où ils sont, donc du coup, ils font demi-tour. Et dans les chemins, des fois, il y a des chemins où ce n'est pas très large. Ça peut vite faire un face-à-face et ça peut être très, très grave. Quoi.
D'accord.
Donc, ça a quand même un gros impact de défléchir.
Ouais. Et donc ça, on y veille au début de l'épreuve, à la fin de l'épreuve, tout le long de l'épreuve, on a vraiment des gens qui sont là pour veiller à tout ça.
Ben oui, il y a 15 marshals prévus à cet effet.
Ouvreurs,
des qui tournent sur le parcours pendant tout le temps de l'épreuve pour... vérifier que personne n'est en panne ou qu'il n'y a pas de problème de fléchage.
De fléchage, oui, bien sûr.
Voilà,
bien sûr,
donc en permanence, il y a 15...
15 personnes qui surveillent ça.
Ouais.
Pour surveiller ça. Il y a combien de bénévoles qui vont, du coup, aussi marquer les carrefours pour assurer la sécurité? à peu près.
Une vingtaine.
Une vingtaine de personnes qui seront là aussi pour assurer la sécurité.
Absolument.
Ouais.
Ça nous est aussi imposé par la préfecture. Tout ça.
D'accord. Voilà. Ok.
Et puis on est bien conscient que ça doit se passer comme ça.
Bien sûr. Il y a aussi une chose importante. Le président de la fédération va faire le déplacement à la Tour Blanche. Sandra, vous regardez avec ses yeux.
Oui, parce qu'au départ, quand il nous l'a dit en visio, on a eu une vision donc avec Monsieur Rigaudias en janvier.
Ouais.
Je viendrai peut-être. Alors Francis a dit oui, il va venir. Je lui dis attends quand même, c'est un homme très occupé. Et puis non, il s'avère que oui, il a tenu sa promesse. Il sera là.
À la Tour Blanche. Du coup, c'est aussi ça. C'est important quand même que le président de la fédération se déplace.
C'est une belle reconnaissance. Hein.
Complètement.
Pour nous, on est enchantés. C'est quelqu'un de très sympa, très simple, mais qui n'arrête pas de bouger, qui était en Espagne la semaine dernière, qui ensuite était au Mondial en Finlande, qui rentre cette semaine, qui vient à la Tour Blanche, un jour et demi, et qui repart ensuite dans le Gers à Marciac. Il est responsable de l'enduro national, en France d'ailleurs, d'abord, pardon, oui. et du cross-country.
D'accord.
Il part ensuite à Marciac le dimanche, sur une épreuve championnat de France de cross-country.
Les inscriptions, du coup, sont fermées. Je crois qu'il y a encore une catégorie qui est encore ouverte jusqu'à ce soir.
Oui, il y a le Family qui est encore ouvert jusqu'à ce soir, mais tout ce qui est championnat de France et enduro féminin, j'y tiens, les inscriptions sont terminées.
Combien de pilotes on attend, du coup, ce week-end, à peu près ?
237.
235 pilotes à la Tour Blanche ce week-end. C'est beau, quand même. L'espérance d'un événement comme ça, c'était combien de pilotes pour vous?
Déjà, il en fallait minimum 150.
Il en fallait minimum 150.
Oui, parce que c'est une grosse machine. Et puis bon,
c'est une grosse machine. Il ne faut pas
se le cacher, il y a des frais. Quoi.
Oui, bien sûr.
Il y a une mise de fonds importante. Et,
voilà. Ouais. Donc il faut être.
Toujours en précisant que nous sommes tous bénévoles et tant que nous serons vivants, personne ne perçoit d'argent, ni même les pilotes quand ils gagnent, on leur donne un trophée. Ils font ça vraiment par passion.
Il n'y a aucune donation en argent, ni de frais kilométriques, il n'y a rien de tout ça.
D'accord.
Là, aujourd'hui, entre les chronométreurs, toutes les personnes de la FED, il y a combien de personnes qui vont se déplacer là, du coup, pour aussi
des
officiels, ouais.
15.
15 personnes du coup qui se déplacent aussi du coup pour
faire marcher la de course, faut un délégué FFM, il y a 5 chronométreurs, après il faut des commissaires de piste, des commissaires techniques, des commissaires sportifs. Donc principalement 15 personnes.
Il y a du beau monde. Je reviens à ce qu'on a dit tout à l'heure. Le téléphone à Francis, il a sonné. C'était le dossard, je me souviens plus exactement, mais c'était Frédéric Reynaud qui du coup va courir avec une moto de 98. Je me souviens plus le centimètre cube.
125 centimètres cubes.
Et lui, il a réservé une chambre à Brantôme-en-Périgord pour dire qu'aussi, on fait travailler tout ce qui est côté hôtelier du Périgord. Ça, c'est des choses qui sont marquantes. Et puis, il était là, il disait qu'il avait fait la route, il n'avait pas eu de clim, le pauvre. c'est des belles histoires.
C'est une belle histoire. Il était content de découvrir qu'il y avait des carrières à la Tour Blanche. Il a stationné devant une carrière dans laquelle il fait 13 degrés. Il a dit ouf.
Il a pu respirer.
Mon moment fraîcheur de la journée.
Et il a dit, moi je l'ai entendu, pas parce que je suis fan du Périgord, mais il a quand même dit vous êtes dans une très belle région. Ouais. C'est beau chez vous, il a dit.
C'est vrai. Tout à fait.
Francis, il y avait un message là encore pour les spectateurs, les gens qui ont envie de venir à ton événement. Qu'est-ce que tu dirais? Il y a une chose que j'ai pas précisée d'ailleurs, c'est qu'autour de ça, il va y avoir un événement. Il y aura des repas, il y aura des choses. Il y a des choses autour de cet événement, des animations. Il y aura un repas.
Il y a un repas le samedi soir.
La tradition veut, tous ne le font pas, tous les clubs ne le font pas, mais qu'un repas soit organisé, parce qu'ils aiment bien, en plus d'avoir passé la journée à Saint-Pierre-la-Bourg, passer un bon moment, ensemble autour d'un repas local.
D'accord. Donc,
traditionnel périgourdin.
Alors, le repas traditionnel périgourdin, qu'est-ce que c'est?
Alors, cette année, Francis y a beaucoup tenu. Donc, il y aura Tourin blanchi avec Chabrol. Donc, il doit faire la démonstration, n'est-ce pas?
Je suis pas inquiet, il va le montrer.
plusieurs.
Et donc après, assiette périgourdine, que des choses. Rôti de porc, haricots, coignées, son huile de noix.
Ouais. Donc on met tous les ingrédients.
L'année dernière, ils ont eu du confit de canard. Cette année, on a changé un peu.
C'est très bien. Donc 19h52, il nous reste exactement moins de 3 minutes. S'il y a des choses qu'on n'a pas dites, c'est votre moment. Si, c'est à vous. Voilà, je vous laisse la parole.
Guillaume.
Voilà.
Moi, je tiens à préciser aussi que cet événement-là, donc nous, on se fait plaisir, tout ça, ça fait plaisir à beaucoup de monde. Mais il ne faut pas oublier que ça a des retombées économiques pour la région, qui est quand même énorme, parce qu'on parlait de tout à l'heure de M. Reynaud qui va se loger à Brantôme en Périgord. Mais il y a plein de gens qui se logent autour et qui font vivre les Airbnb, les hôtels, les campings. Ça a quand même, c'est quand même une belle retombée, je pense.
Ouais, ouais, une belle retombée économique.
On ne peut pas savoir combien et tout ça, mais...
On l'a approché. On l'a approché l'an dernier.
Oui, mais moi, j'ai eu des messages d'hôtels de Brantôme qui nous ont remerciés de...
D'organiser cet événement.
Oui, 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 parce qu'ils n'ont pas grand monde d'habitude. Bon, on l'avait fait en avril, mais à cette période-là, et que là, ils étaient complets et que tout le monde était ravi. Quoi.
Et je pense qu'aussi, d'ailleurs, le boucher, le boulanger, oui, tout le monde...
On s'attache à faire travailler les locaux.
De la Tour Blanche, ça, doit être content de cet événement.
Le local,
oui, oui.
Le chiffrage, mais on est à peu près à 50 000 euros de retombées.
50 000 euros de retombées, ce qui est quand même assez énorme pour.
C'est bien, voilà.
Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. Des choses qu'on n'a pas dites. On a tout dit.
Venez
du côté de la. Voilà, venez de la du côté de la Tour Blanche.
Venez. La chose importante, venez, apprenez ce qu'est l'enduro.
Ouais.
Voyez, ne mélangeons pas les catégories motocross, pit bike.
Ouais.
L'enduro, ça se pratique dans des chemins ouverts avec des motos homologuées, avec des pneus ne dépassant pas 18 mm. C'est cadré et encadré par des gens responsables. C'est aussi la responsabilité d'un club de gérer tout cela. Plutôt que de laisser des pratiques ouvertes, on se bat. Nous faisons partie d'une association nationale aussi, il faut le souligner, qui s'appelle le Code des Verts et qui défend la pratique, une bonne pratique. Dans les chemins, que ce soit...
Et de respecter, pratique. Du coup, la nature, quelque chose que bien vous sûr, êtes attaché, du coup, en étant affilié, du coup, à
nous
cette...
Nous sommes des ruraux vivant là depuis toujours.
Donc, on respecte la nature et c'est important de le dire. Merci. Oui, vas-y, Francis.
Et parce qu'aujourd'hui, une certaine image se développe en disant que hier ou avant-hier, j'ai entendu par une personne ou deux dire, mais les agrafes que vous déposez, on n'a pas osé leur dire que c'était des agrafes bio, blesse les arbres. Donc on va faire intervenir une
association
pour que vous ne mettez plus d'agrafe hors une agrafe qui fait un millimètre dans une écorce de chêne.
Oui,
un
oui.
Millimètre,
ah ouais.
Jusqu'à peu du contraire, ne blesse pas un arbre.
Un arbre. Voilà.
Voilà où on arrive.
Oui.
Comment on arrive à des extrémités.
Je comprends. Allez, merci à vous trois d'être venus dans la demeure sport. Moi, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parlera du tournoi de l'amitié qui a lieu à Villetouré. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne soirée. Merci, au revoir.
Merci. Au revoir.